Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral, il est 11h, nous recevons François Malabave et ses invités dans le cadre du Festival des Correspondances. Bonjour François.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Troisième émission en direct des Correspondances de Manosque pour Fréquence Mistral, une émission qui sera marquée par l'ombre magnifique de Jean Giono. Nos invités, Emmanuel Lambert a écrit un étonnant Giono Furioso alors qu'elle préparait l'exposition très attendue du mois prochain au Mucem de Marseille. Nous lèverons le voile sur cet événement national avec également Clémentine Mélois, artiste et écrivaine qui a participé à cette exposition. Enfin, Jacques Méni, président des Amis de Jean Giono, a lui aussi apporté sa contribution à l'exposition du Mucem. Il ne pouvait pas ne pas être des nôtres. Merci et à tout à l'heure. Un duo complice et chacun fidèle des correspondances, le dessinateur Charles Berberian nous propose sa playlist de luxe tout à l'heure en rencontre projection à Jean Le Bleu dans un moment qui s'annonce délicieux car animé par Clémentine Deroudil. On parlera musique et plutôt rock'n'roll, mais d'abord le programme du jour avec Olivier Chaudançon et on se retrouve juste après. Chaudançon, vendredi 27 septembre, journée très chargée pour les correspondances.
Oui, et ça démarre comme le veut la tradition avec l'apéro littéraire, les membres du comité de lecture qui reçoivent deux écrivains invités des correspondances. Ce seront aujourd'hui René Frégny et Louis-Philippe d'Alembert. Et puis à 11h30, va débuter un cycle très intrigant et je ne saurais vous conseiller de faire un petit détour pour écouter ça. Nous recevons Irma Pelletan. Ça va se passer d'ailleurs à l'auditorium du conservatoire et non pas à la fondation Carzo, comme nous l'avions annoncé dans les programmes pour des raisons techniques. Quoi qu'il en soit, au conservatoire, à 11h30, avec Irma Pelletan, nous allons découvrir les lettres à Clipperton. De quoi s'agit-il? Irma Pelletan a découvert un jour qu'un îlot au fin fond du Pacifique Sud, Clipperton, était une propriété française, c'est une terre française, c'est un atoll corallien sur lequel personne ne vit, mais c'est la France. Et la France, ayant une passion administrative sans limite, attribue un code postal à toutes ces terres. Donc, Clipperton a un code postal, ce qui a donné à Irma Pelletan l'idée saugrenue et amusante d'écrire à Clipperton en voyant bien ce qui se passerait. Et donc, elle a acheté un paquet d'enveloppes par avion et elle s'est dit je vais écrire chaque jour une lettre et puis quand j'aurai épuisé ce paquet d'enveloppes j'aurai fini mon projet artistique. Elle a écrit près de 200 lettres, 150 plus exactement. Et puis, quelques semaines, quelques mois après, les lettres ont commencé à lui revenir. N'habite pas à l'adresse indiquée, donc je sais pas comment les postiers se sont débrouillés, mais ils ont dû s'apercevoir au bout d'un moment que Clipperton, ça allait pas marcher. On saurait pas à qui donner la lettre. Quoi qu'il en soit, Irma Pelletan, qui a donc réceptionné toutes ces lettres envoyées et qui lui sont retournées, n'a pas ouvert les enveloppes. Elle a d'ailleurs en partie oublié ce qu'elle avait pu écrire dans ses lettres. Mais elle a décidé pour les correspondances d'ouvrir devant nous ses courriers et de nous lire ses lettres à Clipperton. Voilà, donc grand projet littéraire et poétique qui débute aujourd'hui et que l'on retrouvera également samedi et dimanche. Pour le reste, journée chargée en effet, il y aura un karaoké littéraire à 14h, place Marcel Pagnol, pour le public jeune et ado. Nos traditionnelles siestes acoustiques à 14h30 avec évidemment Bastien Lallemand, mais aussi Maëva Lebert, J.P. Nataf, Alban Lassimone et deux écrivains invités du festival. À 15h, une série de propositions. Place de l'Hôtel de Ville, ce sera Olivier Adam. Le public des correspondances le connaît bien. Il revient pour un nouveau livre qui s'appelle Une partie de badminton. Le titre indique une certaine ironie. Je crois qu'il l'a emprunté à Alain Chamfort dans une de ses chansons qui dit « Oui, la vie, c'est pas vraiment une partie de badminton ». Donc là, on retrouve Olivier Adam et son double romanesque à qui il arrive une série d'emmerde, on peut le dire. Voilà, donc c'est un livre assez drôle, avec une vraie distance ironique, où Olivier Adam se met en scène, non pas lui exactement, mais quelqu'un qui pourrait lui ressembler, mais qui n'est pas lui. Dans cet après-midi-là, on peut aussi faire le choix d'être place Marcel Pagnol et d'assister à l'échange entre Bérangère Cournu et Hélène Gaudy. Les deux sont sur la banquise. Bérangère Cournu, qui d'ailleurs au passage vient d'obtenir le prix du roman FNAC, c'est tout à fait mérité. Elle a écrit De Pierre et d'Os, un magnifique livre publié aux éditions Le Tripode, qui se passe totalement au pôle Nord. On suit une Inuite qui un jour est isolée de sa famille parce que le bout de banquise sur lequel elle est rompt et la sépare physiquement de sa famille. Elle va dériver et rencontrer une autre banquise et être adoptée par une autre communauté inuite, et on est parti pour une histoire très singulière. Comment vit-on sur la banquise, de façon très prosaïque? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on se chauffe? Comment on s'abrite? Etc. Mais aussi très spirituel, en découvrant cette culture qui nous est parfaitement étrangère, et on se fait happer dans ce monde merveilleux de dureté et d'imagination et de mythe. Enfin voilà, c'est vraiment un livre envoûtant. Elle va dialoguer donc avec Hélène Gaudy, qui elle a enquêté sur une expédition qui est partie sur la banquise il y a plus d'un siècle, qui a disparu. On a fini par en retrouver des traces, et donc elle nous raconte cette exposition scientifique. Et puis à 15h également, à l'auditorium du conservatoire, Olivia Rosenthal qui fera une lecture de son tout dernier texte. 16h30, autre série de rendez-vous. Place de l'Hôtel de Ville, deux auteurs que l'on affectionne et qui sont d'anciens résidents ou résidents actuels, même des correspondances. Sylvain Prudhomme d'une part pour son très beau Par les routes. Et puis Blandine Rinkel, notre actuelle résidente. Ils vont dialoguer l'un et l'autre. À 16h30, on a aussi le choix d'écouter Philippe Forest pour un livre dont le titre est très beau, et puis le livre aussi, évidemment, ça s'appelle « Je reste roi de mes chagrins ». Puis dernier choix, à 16h30, dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu, Charlie Delwart pour « Data Biographie ». Alors, c'est un livre très singulier, parce que Charlie Delwart a décidé de faire en quelque sorte son autobiographie en puisant dans ses données personnelles. Il a essayé de quantifier toutes sortes de choses. Par exemple, avec tout l'argent qu'il a dépensé chez ses psychanalystes, combien aurait-il pu acheter de mètres carrés à Paris, à New York, à Athènes, etc. Alors dit comme ça, ça peut être drôle, voire absurde, mais après, au fil des pages du livre, on va s'apercevoir que plein d'informations comme ça sont intrigantes, et on se dit, ah tiens, et moi, qu'en est-il? Qu'est-ce que j'ai fait? Etc. Enfin, voilà, donc c'est une autobiographie pleine de drôleries, puisque puiser dans les chiffres comme ça, ça peut amener à des considération très étrange, mais aussi très réflexive. Voilà. Autre exemple, il nous fait un graphique à un moment en disant, bon, le nombre de fois où je me suis disputé avec mes enfants. Et puis le graphique d'après, c'est bon, après coup, parmi ces fois-là, les fois où au fond j'avais tort, les fois où au fond ils avaient tort, et puis les fois où on peut pas décider, en fait, voilà. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est très, très malin, et au sens fort du terme. Et puis à 18h, ce jour-là, une autre série de rencontres. Kauter Hadimi dialoguera avec Brigitte Giraud. Kauter Hadimi qui a écrit un livre qui se passe à Alger, où on a des enfants et des adolescents qui jouent au foot sur un terrain vague, et puis un jour, des militaires à la retraite débarquent et font valoir leur titre de propriété. Ce terrain vague leur appartient. Ils vont y construire une villa. Et autour de cette petite fable comme ça, on découvre la société algérienne contemporaine, et puis la drôle de façon dont ils sont dirigés, hélas, les pauvres, par un régime un peu corrompu, pour ne pas dire plus, dirigé par des militaires et des quelques oligarques qui captent la richesse du pays. Se soucie guère du bien commun et du peuple. Brigitte Giraud, elle, explorera un point d'histoire. Enfin, je ne vais pas vous raconter le livre, mieux vaut le découvrir, mais je pense que c'est un dialogue très, très intéressant qui peut se développer entre elles deux. On pourra aussi écouter un auteur italien, Josué Calacciura, qui viendra dialoguer avec son traducteur. C'est comme chaque année une rencontre que nous faisons avec le Collège des traducteurs d'Arles. On a à cœur aussi de développer ce genre de partenariat-là. Et puis à 18h également, on pourra entendre Éric Chevillard. Éric Chevillard qui est un écrivain important à mes yeux, rare, puisqu'il n'est pas très à l'aise dans les rencontres publiques et a plutôt tendance à esquiver ça. Alors il nous fait la confiance d'avoir accepté notre invitation et on viendra écouter cet auteur qui a écrit un grand nombre maintenant de romans, de fictions publiés aux éditions de Minuit et qui tient également un blog. L'autofictif que j'invite chacun à aller voir, soit sur internet, soit en achetant les recensions qui en ont été publiées chaque année. C'est d'une drôlerie incroyable, voilà. C'est un moraliste hors pair et un des écrivains les plus drôles que je connaisse. Voilà, je pense que c'est une rencontre qui là aussi vaut le détour. Et puis dernière proposition à cette heure-là, dans la petite salle du théâtre Jean le Bleu, Charles Berberian. Qui signe d'ailleurs cette année, comme l'année dernière, l'affiche du festival, c'est un compagnon de route. Il viendra nous parler de son travail, de titre dessinateur, d'auteur de BD, et plus particulièrement, nous parlera d'un ouvrage qui s'appelle Playlist, parce que Charles Berberian, qui a beaucoup de talent, est aussi un passionné de musique. Il joue de la guitare, il chante lui-même, et il a fait un album sur son histoire personnelle de la musique et ses artistes fétiches. Voilà, donc on va explorer ça ensemble à ses côtés. À 19h30, Virus. Virus est un slammer, un rappeur. Il aura travaillé pendant 3 jours avec les jeunes de la MJC et avec eux. Il nous offrira un concert qui mêlera ses propres compositions, le concert de Virus, mais un concert hospitalier puisqu'il fera un peu de place à ces jeunes qui auront travaillé à l'écriture à ses côtés pendant 3 jours à la MJC. Et puis en soirée, une grande correspondance patrimoniale mais vive pour autant, Georges Sand qui écrit à Gustave Flaubert qui lui répond, ça s'appelle « Tu aimes trop la littérature, elle te tuera », c'est déjà un programme. Ce sera porté par 2 grands comédiens, Julie Depardieu, Michel Faux. Ça va faire partie des grandes soirées des correspondances de cette année, je le crois. Et on pourra poursuivre la soirée à 22h30 avec un moment, là encore très drôle, Philippe Jaénada. On le connaît à Manosque, il est venu plusieurs fois. C'est un des grands maîtres de la digression. Il est capable de nous raconter des épisodes de drôlerie où il se met dans des situations pas possibles. Et donc, il nous a choisi un certain nombre d'extraits de ses livres, et particulièrement les moments un peu burlesques. Il nous les fera entendre avec en écho la parole et les chansons d'Émilie Loiseau.
Olivier Chaudançon, dans la présentation du programme de cette belle journée du vendredi 27 septembre, nous sommes plusieurs en plateau et nous serons assez nombreux d'ailleurs, heureusement, pour parler d'un monument. Et le monument, il est manosquin, c'est bien sûr de Jean Giono dont nous allons parler. J'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Lambert. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Vous êtes en charge notamment de l'exposition du MUCEM et vous avez écrit aussi un superbe livre qui s'appelle Giono Furioso. Nous allons en parler dans un instant. À vos côtés, une de vos complices pour cette exposition, Clémentine Mélois. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et puis, bien sûr, il ne pouvait pas ne pas être des nôtres, je l'ai dit, notre ami Jacques Ménie, le président de l'association des amis de Jean Giono. Bonjour Jacques.
Bonjour François.
Est-ce que cette exposition qu'on va attendre, évidemment, avec beaucoup d'impatience, beaucoup d'intérêt, va remplir justement notre impatience et notre intérêt.
Oh ben j'espère, je pense. Ce que je voulais dire quand même d'entrée, c'est que je ne vois pas quelle autre institution en France aurait mis autant de moyens d'abord, de moyens financiers, de moyens techniques, autant d'espace, autant d'énergie et de conviction dans la réalisation d'une exposition qui est quand même un monument. Il est vrai que j'avais rêvé depuis très longtemps pour le 51 de la mort de Giono d'une exposition nationale importante, que la Bibliothèque nationale de France n'ayant pas été intéressée, il y avait le MUCEM, en effet. C'est très amusant, cette histoire, parce que avant même l'existence du MUCEM, Pierre Berger, que, comme vous savez, je connaissais bien, et qui était le président d'honneur de notre association, m'avait dit: Jacques, oubliez la BNF, c'est pas très intéressant ce qu'ils font maintenant, allez voir du côté de Marseille s'il y aurait pas quelque chose à faire. Et moi je lui avais répondu, je me souviens, ouais mais Marseille ça va encore nous remettre Jeannot Pagnol dans le circuit. Et finalement non, il faut quand même que je le dise, et je vais le dire souvent je pense dans les semaines qui viennent, dire que Jean-François Chounier, le président et directeur du MUCEM, qui a une connaissance, je dirais, de très haut niveau de Giono, et qui a la passion de cet auteur, a vraiment déployé là tout ce qu'il fallait pour que ce soit le grand événement littéraire de le grand événement de l'année. Oui absolument.
Vous avez vous-même, avec l'association des amis de Jean Giono, ouvert tout grand la maison à Emmanuel Lambert pour son travail.
Emmanuel, dis-moi si je me trompe, mais je crois que en dehors des œuvres de quelques artistes et des commandes artistiques bien sûr que tu as faites, je pense que 80% de ce qui est exposé dans les tu as choisi dans l'exposition vient de chez Sylvie Giono et du Paraïs à peu près.
Oui, pour ce qui concerne les documents papier. Oui, parce que c'est vrai que dans l'exposition, il y a une part plastique qui est extrêmement importante et mais qui ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas le contrepoint des documents papier. C'est-à-dire que dans l'exposition, on va jouer sur l'écart entre l'homme réel, l'homme qui a vécu cette vie à Manosque pendant laquelle il a écrit, et puis l'écrivain qui est cet homme mais qui n'est pas tout à fait cet homme, et qui a produit cette œuvre qu'on connaît, qui va déployer son imaginaire à travers des tableaux, des installations, des films. Donc voilà, donc je ne peux pas vraiment le quantifier parce que ça n'aurait pas de sens, mais en tout cas, on a un fonds documentaire de manuscrits et de documents biographiques qui est absolument exceptionnel. C'est assez rare d'avoir autant de choses. Je pense que c'est lié au fait que Giono a assez peu bougé dans sa vie. Il est né à Manosque, il est mort à Manosque.
À 300 mètres d'ici et à 300 mètres de l'autre côté.
Exactement. Et donc, il ne fait pas partie de ces écrivains dont les traces matérielles de la création ont été dispersées au gré de leur propre déménagement, déplacement. Tout est là. Donc, on n'a pas quelque chose d'exhaustif, parce que ça n'existe pas, l'exhaustivité. Il y a toujours, même quand on est très soucieux de garder les choses, il y a toujours des choses qui vont se volatiliser. Mais enfin, on a vraiment un ensemble exceptionnel, oui.
Et vous en avez tiré un livre particulier, qui est un clin d'œil à l'Arioste en plus, Giono Furioso. C'est venu comment, cette idée de faire un livre sur à la fois vos recherches et puis, évidemment, votre rapport particulier avec cet immense écrivain?
Alors c'est venu assez tard et c'est venu de manière naturelle d'une certaine manière, parce que ma particularité, je fais des expositions littéraires, mais je suis écrivaine. Je ne suis pas conservatrice de musée, je ne suis pas universitaire, donc j'ai un rapport à cette matière qui est la littérature, qui est un rapport en fait de l'ordre de la pratique. Que quand je m'attaque à un écrivain, si j'ose dire, ce qui m'intéresse, c'est cette matière vivante. C'est pas l'inerte, c'est le vivant. Donc, il y a tout le travail autour de l'exposition qui se construit, et puis parallèlement, dans un petit coin sombre, il y a la rumination de moi-même comme écrivain qui se poursuit. Et à un moment donné, on en parlait hier avec Clémentine dans la rencontre place Marcel Pagnol, à un moment donné, au milieu de ce travail éminemment collectif qu'est une exposition, dans lequel vous, comme commissaire, vous devez aussi vous ouvrir aux idées des autres et accueillir leur écrivain, c'est pas seulement le vôtre, c'est aussi le leur, il y a un besoin de silence et de solitude qui se fait sentir, qui est ce rapport personnel, éminemment personnel à la lecture et à l'écriture.
Il faut du recul ?
Je sais pas. Je pense qu'il faut du recul par rapport à son propre livre à un moment donné, pour ne pas se laisser embarquer par son sujet. C'est-à-dire que Giono est tellement immense et il est tellement productif qu'il y a deux risques. Le premier, c'est de se faire écraser par un génie stylistique. Donc si on est là en train de se regarder écrire, évidemment, on va tout arrêter, parce qu'on ne pourra jamais arriver à la hauteur de l'idée qu'on se fait de ça. Et puis l'autre chose, c'est la masse. C'est-à-dire que si on se laisse emporter dans la masse de l'œuvre, on ne pourra pas produire ce qu'à mon avis il faut produire, qui est une sorte de coup de fouet à l'œuvre. Quand on a des massifs montagneux comme ça, tellement considérables, il faut arriver et quelque sorte charger là-dedans. Sinon, on dilue, on délaie, et ça devient illisible et on se perd dans les différents masques de Giono, dans ses différents discours, dans les différentes périodes de son œuvre. Et au fond, ce qu'on produit est une pâle imitation de son propre trajet.
Et c'est l'une des leçons de votre ouvrage, c'est justement qu'il est clair. Et ça, c'est important, parce qu'on a parfois, certains écrits de Giono ne sont pas très clairs du tout. Et donc là, on est vraiment dans un rétablissement de la vérité, de la réalité, et c'est une bonne chose. Je vais vous lire un premier extrait de votre livre, Emmanuel. On va vite comprendre de quoi vous venez de parler et de quoi on va continuer à parler. Pour l'exposition qui m'a été commandée, j'ai un but, un agenda, comme disent les anglo-saxons, en ajoutant un soupçon de sournoiserie ou de stratégie à l'affaire, rendre intelligible le sujet Giono, mettre un ordre dans le désordre de l'écriture, les contradictions des déclarations, les images successives, les témoignages, composer avec le bruit du temps et de la postérité, tracer une ligne ou un propos, offrir aux autres une vision et leur faire saisir le mouvement de la création, la beauté du style et la chair de l'homme qui a écrit. Il peut bien continuer de sourire, il n'est là qu'en pensée, s'amusant par-dessus mon épaule, il est mort, voilà 50 ans. Ça veut tout dire déjà.
Ça veut tout dire. Oui, c'est-à-dire que le sourire, c'est important quand même, chez Giono, alors que c'est une œuvre très sombre, qui cherche la lumière, mais qui la cherche vraiment dans la noirceur. Mais il y a chez lui cette chose que je trouve à la fois héritée de la littérature anglaise et sans doute également de la littérature de la Renaissance, parce que c'est quelqu'un d'immensément cultivé, qui est le sourire sur sa propre œuvre. Et le fait que, avec Giono, il est toujours un peu compliqué de savoir à quelle sauce on va être mangé. Et donc il y a un rapport d'inquiétude à cette œuvre aussi qui s'installe et qui pour moi est la marque des grands auteurs. Un auteur qui est trop immédiatement facile à saisir, où il n'y a pas de doute qui s'installe, si on ne se dit pas « mais suis-je bien sûr de ce que je suis en train de lire ?» mais où on ne sort pas un peu décontenancé, déstabilisé. Pour moi, ça peut être plaisant. Mais moi, en tout cas, j'ai malheureusement une propension à l'ennui assez grande, et donc je m'ennuie terriblement, très très vite. Avec Giono, on s'ennuie jamais, mais c'est aussi parce que on est bousculé par lui, et que son sourire au milieu des charniers est une chose un peu compliquée pour nous qui lisons depuis aujourd'hui.
Vous le dites dans une belle expression, à un moment dans votre livre, l'œuvre de Giono n'est pas taillée pour les douillets. Ça n'a rien à voir avec les judokas, hein, je vous rassure tout de suite, mais en tout cas c'est pour les lecteurs. Et effectivement, il y a des romans qui sont plus légers que d'autres, mais très souvent il y a quand même un poids particulier chez Giono que l'on retrouve. Alors il y a une astuce dans votre livre qui est importante. Vous parlez à Giono, comme on vient de le voir là, mais Giono ne vous répond pas. Il n'a pas besoin de vous répondre. Et en même temps, c'est une élégance magnifique. Parce que, quelle prétention de faire parler Giono. Vous n'avez pas eu cette prétention, et c'est très beau. Parce que vous questionnez quelqu'un qui n'est pas mort, disait Sylvain Tesson, il y a deux jours sur les places de Manosque. Et non, il est toujours là, il est toujours vivant. Par son œuvre, évidemment, par son poids en tant qu'être humain. Et vous parlez beaucoup de l'homme, Giono, vous dévoilez aussi certaines choses qui sont plus ou moins connues quand même, Jacques, à Manosque, on en parle depuis pas mal d'années.
Hein. Disons qu'on en parle officiellement.
Voilà, voilà, maintenant c'est fait, et il reste encore quelques petites zones d'ombre, mais bon, on ne va pas tout dévoiler quand même, on est ici dans une ville du secret, Manosque, hein, il ne faut pas l'oublier, les hussards se promènent sur nos toits, il ne faut pas oublier
tout ça. Il suffit de lire Le Moulin de Pologne, je crois qu'il y a vraiment le roman du secret Manosque. Hein.
Et donc c'est vrai qu'il y a cette approche qui est très respectueuse de cet écrivain immense, hein, je le répète, et en même temps, vous allez au charbon, quoi. Vous lui posez des questions, il vous répondra certainement par ses œuvres, tout simplement. Quoi.
Mais oui, c'est-à-dire que il a dit plusieurs choses, Giono, et il faut toujours se méfier des entretiens d'écrivains. C'est rigolo parce qu'on est en train de faire un entretien d'écrivain.
Oui,
là,
mais on va suivre votre conseil,
bon,
attention.
Voilà. Mais il y a des choses, si vous voulez, une fois qu'on a lu et relu et parcouru l'œuvre, il y a des choses qui sonnent à vos oreilles différemment. Voilà. Et notamment, il a dit des choses dans son journal que moi je trouve très importantes. La première, c'est qu'il a une notation dans les années 30, il dit « n'être que mon œuvre ». Et ça, pour moi, c'est très puissant parce que je crois vraiment qu'il faut garder ça en tête tout le temps. Un écrivain, c'est d'abord son œuvre. Et si on veut approcher l'homme, il faut commencer par les livres. Et l'homme va surgir peu à peu des livres. Et ça, c'est la méthode que je m'applique à chaque fois que je lis l'œuvre intégrale d'un écrivain. L'autre chose qu'il a dite et que j'aime beaucoup parce qu'il y a le côté un peu provocateur de Giono là-dedans, il a dit « ce que j'ai à dire, je l'écris, le reste, c'est zéro ». Et j'ai suivi ça dans le livre. C'est-à-dire, vous disiez, je n'ai pas fait parler Giono, mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout de faire parler Giono. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ses livres. Il a tout dit dans ses livres. Et moi, le besoin que j'ai eu de lui parler en direct, là, pour le coup, c'est quelque chose d'un peu insolent, mais que j'assume complètement. C'est-à-dire que quand vous vous prenez comme ça d'amour pour une œuvre, et donc pour un écrivain, vous vous l'appropriez. C'est comme ça. Et je crois qu'il faut à un moment assumer cette chose. C'est-à-dire, ça ne doit pas être tout le livre, parce qu'il faut que son œuvre puisse surgir, et que ma lecture ou votre lecture puisse surgir des pages. Mais il fallait que je signifie que Giono était devenu mon écrivain, temporairement, que je vivais avec lui, que toute ma famille vivait avec lui, au milieu de tous mes documents. Ça avait envahi la maison, il y en avait partout du Giono. Hein, c'était,
et donc, y a quelque chose... Ça va durer peut-être encore un petit peu.
Oui, mais là, on va en sortir peu à peu. Ça va être compliqué, d'ailleurs, d'en sortir. Et donc, ce trop-plein-là, j'ai choisi l'adresse directe parce que c'est ce qui me semblait le plus vrai, au fond. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un artifice formel. C'est quelque chose vraiment de l'ordre de la spontanéité de la lectrice.
Je vais donner une illustration de ce que vous venez de dire, Emmanuel. C'est un extrait de votre livre, bien sûr. Et vous vous adressez, devinez à qui ? À Jean Giono. Car sachez-le, c'est un fait incontestable, vous rayonnez. Dès que je dis votre nom, les visages s'éclairent de l'émotion que votre évocation diffuse. Il semblerait qu'ils vous aiment tous, et pardonnez-moi, cela m'est un peu suspect. Parfois, leur œil s'allume. Ah oui, Giono ! Et c'est un vide, car le plaisir était d'abord celui de vous nommer. Vous êtes un nom avant tout, vous êtes un mot. On vous connaît, et pour vous connaître, il n'est pas nécessaire de vous avoir lu. Telle est la rançon de votre survie dans la mémoire collective. C'est peut-être ça la notoriété.
Oui, c'était Rob Grillet, que j'ai bien connu, avec qui j'ai travaillé, qui répétait tout le temps « je suis surtout connu pour ma notoriété ». Et il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire, évidemment, je crois que beaucoup d'entre nous ont lu un livre, ou feuilleté un livre de Giono, ou entendu parler de Giono, ou l'ont étudié vaguement à l'école. Il fait partie de ce qu'on appelle le patrimoine. Mais le patrimoine est quelque chose de figé. Le patrimoine est quelque chose d'immobile. Or, la littérature est quelque chose de vivant. Ça bouge, ça part, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas la fixer dans une idée. C'est la grosse difficulté de l'exposition, d'ailleurs. De laisser suffisamment de marge et de jeu pour ne pas... Vous savez, c'est un peu comme la cuisine quand on fait les trucs dans des croûtes de sel, quoi. Il fallait pas faire Giono en croûte de sel. Il faut au contraire qu'il puisse sortir et exploser. Et donc, ce côté mouvant, c'est le contraire de la notoriété, parce que c'est quelque chose qui se passe dans l'intimité des lecteurs. Ce n'est pas un rapport social, c'est un rapport intime.
Et en même temps, très personnel à chacun. Et il va y avoir des interprétations différentes et certainement des réactions différentes lors de l'exposition au MUCEM. J'ai choisi un autre extrait qui va nous transporter vers l'endroit que vous avez fréquenté ici à Manosque, évidemment pour pouvoir travailler et présenter votre travail ensuite à tout le monde, j'allais dire au monde entier, mais pourquoi pas. Au MUCEM dans un mois à peu près. C'est évidemment le Paraïs. La modestie de la maison de Giono est incarnée dans l'hospitalité de ceux qui en ont la charge, et plus particulièrement de Jacques, qui préside l'association. Sa sacoche de professionnel à l'épaule, débordant de documents photocopiés et de raretés chinées chez les libraires anciens, il fait trembler la maison à lui seul, s'affolant d'un étage à l'autre, éternellement à la recherche d'une ou deux, 10 000 références à la fois. Il creuse un sillon de labeur et de dépenses dans les terres d'un endroit qui, sans lui, sans eux, aurait pu rester désolé. Il acquiesçait Jacques à côté, évidemment.
Alors là, je me suis dit, elle fait du Giono, c'est-à-dire qu'elle grossit le trait, elle démesure, elle fait du roman, puisque la définition du roman chez Giono, c'est d'être à côté de la réalité ou de la déformer. Là, je me suis dit, là quand même, là,
non, là, sa coche, c'est vrai, Jacques.
La sacoche est juste.
Alors,
oui, mais là, c'est son goût de l'objet. C'était pas oublier qu'elle a travaillé avec Robrier. Hein. Bon.
Il en demeure pas moins, cher Jacques, que c'est grâce à vous que tout ce tintouin se fait autour de Giono depuis déjà pas mal d'années. C'est pas la première fois que je le dis et je continuerai à le dire avec beaucoup d'énergie. Emmanuel, comment vous avez été accueilli au Paraïs?
Bah, merveilleusement.
Comme une reine.
Non, mais c'est important parce que les associations d'amis sont une chose particulière, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens, alors c'est toujours un peu gênant de parler de Jacques devant Jacques, mais c'est comme ça, qui sont mus par le plaisir. Et pas par un rapport d'intérêt ou même par une mission qui ne serait que scientifique. C'est-à-dire que ce sont des professionnels autodidactes. Et leur rapport donc à Giono et à l'œuvre de Giono, et là encore, j'insiste, mais est un rapport vivant. C'est que les institutions sont faites pour conserver, et quand on conserve, on immobilise.
Beaucoup,
c'est normal.
Beaucoup d'ailleurs l'ont connu.
Oui, beaucoup l'ont connu. Donc ce sont à la fois des gardiens et des témoins. Et il y a quelque chose de Giono qui transpire chez eux. Et il y a quelque chose, dans l'extrait que vous avez cité, je parle de la dépense, qui est une grande notion gionienne, très très importante. Le rapport de Giono à la générosité est quelque chose d'extrêmement fascinant, parce que il voit ce qu'il peut y avoir de sombre dans la générosité, et il voit ce qu'il peut y avoir d'harassant à être généreux. Et les âmes discrètes et cultivées, comme je les appelle dans le livre, hein, qui sont les gens, les bénévoles qui s'occupent de l'association, sont dans ce rapport-là. C'est-à-dire, ils vous accueillent et ils vous épuisent de leur générosité. Et ça, c'est merveilleux, parce que c'est extrêmement gionien. Et donc, moi, je me suis retrouvée plongée dans une masse de renseignements, de documents, d'anecdotes. Et il y en avait toujours plus. À un moment donné, j'ai la même mondiale, mais je ne vais pas y arriver. Je vais être submergée par la générosité gionienne de ces gens qui ont la mémoire de Giono. Et puis, il faut que j'ajoute aux bénévoles de l'association, évidemment, l'accueil de Sylvie.
La
fille cadette de Giono, qui a été d'une... il faudrait que je trouve le mot exact, mais il y a quelque chose de l'ordre de la justesse dans son rapport à tout ça, qui est à la fois un rapport engagé et avec un détachement souverain à ce qui est en train de se passer, qui était magnifique à observer.
Il y a de la distance, c'est vrai que c'est important. Et en même temps, elle a beaucoup apprécié, elle me l'a confié hier, ce que vous avez écrit sur sa mère, qui a encaissé beaucoup de choses à Manosque, et sans qui, probablement, Jean Giono n'aurait pas été Jean Giono. Et ça, c'est rendre justice à Élise, c'est une belle chose aussi. C'est quelque chose qui l'a touchée.
Ben, c'est-à-dire que je crois que c'est quand même très important. On a beaucoup parlé à bas mots, voilà, des histoires d'amour parallèle, hein, de Giono. Bon, d'accord. Enfin, quand même pas tout à fait exceptionnel, un homme qui a des maîtresses. C'est pas, voilà, moi, ça m'émeut assez peu. En revanche, le fait que Giono soit revenu de la guerre traumatisé par ce qu'il avait vu dans les tranchées, et que de là soit née une œuvre vraiment de bruit et de fureur, pour citer un de ses auteurs favoris, qui est William Faulkner, qui s'était lui-même Shakespeare, donc vous voyez, on est en bonne compagnie. Je crois sincèrement que c'était impossible s'il n'y avait pas autour de lui quelque chose de calme. Et cette femme, qui, pour ma génération de femmes, évidemment, a vécu des choses que nous, on n'accepterait plus, au fond. Mais enfin, Giono est né en 1895, Élise est née en 1897. Donc le rapport à la conjugalité n'était pas le même. Hein. Cette femme a accepté et elle a accueilli tous les Giono qu'il y avait en Giono. Et je ne sais pas, je ne saurais jamais, s'il aurait pu développer tous ces Giono-là s'il n'y avait pas eu Élise, mais mon petit doigt me dit que non.
avec un des Giono qui était à l'intérieur de Giono, qui s'appelle tout simplement Lucien Jacques, à qui vous rendez un hommage magnifique, et vous allez avec Jean-François Chounier lui rendre un très très bel hommage à Marseille, puisque à quelques pas du MUCEM il y aura une exposition consacrée à l'œuvre de Lucien Jacques. Vous citez également dans votre livre le travail remarquable que fait Jackie Michel avec son association. Donc vous voyez, on est en terrain de connaissance et on apprécie beaucoup ces choses-là, parce que Lucien était un ange particulier dans la vie de Giono, un créateur, un créatif, enfin bref, Giono sans Lucien Jacques, impensable.
Impensable, et c'est très émouvant en fait, parce que, bon, moi évidemment je n'ai connu ni Giono ni Lucien, hein, j'étais trop jeune, mais quand je vois les photos de Giono et Lucien, plus encore d'ailleurs que leur correspondance, qui est une correspondance de camaraderie, que Jacques connaît par cœur, il y a quelque chose de l'ordre d'une douleur chez Lucien que je trouve admirable. C'est-à-dire, il y a ce touche-à-tout merveilleux qui était Lucien, qui faisait tout bien, qui avait de l'or dans les mains, quoi, et donc il arrivait à tout faire, et qui a rencontré un génie, et qui a vu que c'était plus grand que lui-même, en fait. Et il y a une générosité chez Lucien qui moi me bouleverse, parce que il a tout toléré de son ami, il s'est fâché avec lui, il s'est rabiboché, il l'a promu, il a été un passeur formidable pour Giono. Il a été lui-même dans cette dépense dont on parlait tout à l'heure, dans cette générosité ahurissante. Et je trouve très beau que Jean-François et Jackie Michel fassent parallèlement à l'expo Giono en face un hommage discret à Lucien, qui fait partie de ces figures de l'ombre sans lesquelles il n'y aurait pas, à mon avis, de grands artistes.
Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler ici même avec Jackie Michel, vous vous en doutez. Il y a un autre endroit particulier chez Giono au Paraïs, c'est évidemment la bibliothèque, merveilleuse bibliothèque, qui désormais est dans l'escarcelle de l'association des amis de Jean Giono. C'est une bonne chose aussi, parce que ça permettra de garder ce patrimoine. Et la bibliothèque, c'est un endroit dans lequel et pour lequel a travaillé Clémentine Mélois, qui adore les livres, mais elle les adore d'une certaine manière, parce que Clémentine Mélois, elle est plasticienne, mais on peut dire aussi qu'elle est quelque part pasticheuse en chef, et elle aime bien faire des pastiches. Son ouvrage sans titre, sans comme sans le nombre, hein, évidemment pas l'absence, sans titre, dit par exemple et fait le pastiche de plusieurs œuvres magnifiques. J'en ai sélectionné quelques-unes, tout simplement Victor Hugo, qui aurait écrit « Les individus en situation de précarité », c'est pas mal, Marx et sa repart, bien sûr, Siménon, mais si, Melville, Moby Dick, alors ça c'est un clin d'œil à Giono aussi, inévitable. Claude Lévi-Strauss, lui, a écrit 501, figurez-vous. Sade, Justin Bieber ou Les Malheurs de la Vertu. Jack London, Calling, avec la couverture des Clash, bien sûr. Wilde, qui aurait écrit 50 nuances de Dorian Gray, ou encore Born to Be, toujours d'Oscar Wilde. Sénèque, Un début. Michel Foucault, Votre dernier mot, et celui-là, alors je l'adore, Dostoïevski, Les frères Bogdanov. D'où vous viennent toutes ces idées, Clémentine?
Et je, juste,
est-ce allez-y, que je peux... allez-y, Emmanuel.
Voilà, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est à la radio.
Oui.
Et
qu'on ne voit pas les couvertures.
Voilà. Et que en fait, le travail de Clémentine, et c'est pour ça que j'ai fait appel à elle pour l'exposition, à mon avis, il ne relève pas exactement du pastiche. Il relève plutôt de la transformation par le détournement. Et c'est là où son rapport au livre, objet et contenu, mais objet, et c'est, donc c'est là où l'image nous manque, puisque me semblait très pertinent pour évoquer le rapport de Giono dans l'articulation, on sent ça dans ce que vous venez de lire, c'est-à-dire entre la culture savante et la culture populaire, et dans l'attention extrême à la beauté de la forme. Clémentine, elle fabrique les livres, c'est-à-dire elle a la matérialité de l'objet qui est présente et qui prend en fait presque le pas sur le plaisir que nous procure le jeu de mots. Et donc, je me permets juste de préciser ça, parce que quand j'ai passé cette commande d'artiste à Clémentine dans le cadre de l'exposition, c'était aussi pour qu'il y ait ce rapport à la matérialité de l'objet que Giono avait, puisqu'il a constitué cette bibliothèque toute sa vie, et qu'aujourd'hui, on peut, grâce au travail de Jacques et de l'association, la contempler au Paris, comme Clémentine l'a fait pour préparer son travail.
Avant de lui passer la parole, juste vous signaler, et hier vous l'avez remarqué évidemment, que l'écritoire qui est sur la place Marcel Pagnol, où vous êtes intervenu, ben c'est la bibliothèque de Clémentine Mélois, avec ses ouvrages assez incroyables. Par exemple, vous disiez Moby Dick, donc, et puis c'est un livre qui compte pour Giono, Moby Dick. Mais Moby Dick, c'était un gribouillis avec un stylo bille, quoi. Et c'est effectivement Clémentine Mélois qui met sa patte aussi de plasticienne. Clémentine, la bibliothèque de Giono vous a inspiré aussi quelques détournements?
La bibliothèque m'a énormément inspiré, c'était une grande découverte. Je tiens à dire que les jeux de mots que vous venez de citer, qui évidemment prêtent à sourire, et c'est aussi le but, sont avant tout un déclencheur pour moi. C'est-à-dire que ça ne fonctionne qu'en images, comme le soulignait Emmanuel. Ce qui m'intéresse, c'est de créer un incident dans nos habitudes de regardeur. C'est-à-dire que quand on aime les livres, on vit avec eux, on a l'habitude, on connaît les éditions, on connaît les couvertures, on sait qu'un ouvrage dans la Pléiade reflètera une certaine idée de la littérature, comme un ouvrage un polar reflètera une certaine idée de la littérature. Et pour moi, créer une espèce de très léger décalage dans cette habitude de regardeur suscite quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est comme une sorte de, on peut comparer ça à un millefeuille. Il y a plusieurs strates. La première est évidemment, on sourit. Mais sortis de leur contexte, ces jeux de mots, pour moi, n'ont pas d'intérêt, n'existent pas. C'est ce qui est intéressant, c'est l'objet, et c'est surtout, à un moment donné, il y a un très léger décalage dans le quotidien, dans l'habituel. Voilà. Et quand on parlait du sourire et du rire, on rejoint ce qu'on disait sur Giono, c'est-à-dire que la légèreté n'exclut pas la mélancolie, et que c'est pour moi une forme de pudeur ou de réaction à la noirceur, précisément, d'avoir recours au rire. Mais rien n'est jamais si simple. Il y a plusieurs degrés de lecture, et s'il n'y avait pas ces plusieurs degrés de lecture, on s'ennuierait beaucoup. Donc, je suis très heureuse qu'on s'en amuse, et j'aime rire aussi, mais tout cela va au-delà. Et c'est ce que j'ai aussi fait avec ce travail sur la bibliothèque de Giono. Je suis vraiment très heureuse qu'Emmanuel ait fait appel à moi. Une exposition, c'est comme un puzzle, comme un meuble en kit. Emmanuel est la seule à avoir une vision, et Jacques, d'avoir une vision de l'entièreté. Elle m'a confié une pièce du puzzle, et c'est cette pièce-là à laquelle je me suis attachée. Et en l'occurrence, j'ai visité la bibliothèque de Giono au Paraïs, et mon rôle à moi était de traiter ce que j'ai compris du Giono lecteur, et c'est tout, c'est une toute petite pièce.
Avec cet esprit caustique et profond, comme vous venez de le définir.
Avec l'esprit qui est le mien, parce que c'est une commande d'artiste, donc je ne fais pas de reconstitution, je ne fais pas de restitution de la bibliothèque.
C'est une expression.
Disons que je suis le filtre à travers lequel mon travail, voilà, j'en ai fait quelque chose.
Oui, parce qu'il y a une chose importante concernant Giono, c'est que c'est vraiment une œuvre de fracas et une œuvre torrentielle où tout est démesuré, comme le disait Jacques tout à l'heure. Mais il y a chez Giono une forme de légèreté qui est difficile à montrer. On peut la raconter, on peut la raconter dans un livre, on peut la mettre sur un panneau de texte, mais une exposition, c'est dans l'espace. Ça doit être quelque chose qui est ressenti par le visiteur. Et le travail de Clémentine qui est... Je disais hier dans la rencontre, il faut beaucoup de travail pour être désinvolte, et je crois qu'il faut beaucoup de travail pour être léger. Sinon, on est juste superficiel. Et c'est là où son travail m'intéressait, et ce sera sans doute le seul endroit de tout le puzzle, comme elle disait, où on pourra, je l'espère, vivre le rapport de plaisir, d'intensité et de légèreté de Giono à la lecture.
Alors, on pourrait parler des heures, hein, vous savez bien ici même de Giono, bien sûr. Ce qui m'a marqué dans votre livre, c'est bien sûr, Emmanuel, ces deux moments forts dans la vie d'un homme et d'une population où tout bascule. Ce sont bien sûr les deux guerres mondiales. Giono, avant 14, était une certaine personne. Après 14, il sera différent, bien sûr. Et puis, il aura plein d'illusions qui, en 39-45, vont complètement s'effondrer. Et il va écrire des chroniques qui sont plutôt tristes, sombres et violentes. Ce sont les moments clés de la vie de Giono, en fait.
Ben, oui, c'est-à-dire, il est traversé par ça. Voilà, il a, c'est cette génération qui a subi l'histoire. Il le dit, hein, d'ailleurs, dans Jean le Bleu, il a une phrase merveilleuse. Il parle de son ami Louis David, son ami d'enfance et d'adolescence, qui est mort à la guerre à 20 ans. Et il dit, quand j'évoque Louis David, je ne peux pas me remémorer vraiment les moments heureux. Je suis tout sali de sang. Et il ajoute plus loin, le côté de ces pages est taché de pu et d'ombre. Et voilà, là pour moi tout est dit. C'est à partir de là, la jeunesse de Giono s'est envolée. Il perd son père peu de temps après, qui était, je pense, l'amour de sa vie. Alors, j'aime pas faire de la psychologie avec les écrivains. Mais là, il se trouve que c'est dans l'œuvre. À partir du moment où c'est dans l'œuvre, alors là, on peut s'en emparer. Et le militantisme pacifiste des années 30, où il est enragé, hein, ce sont des textes extraordinaires, les écrits pacifistes de Giono, mais extraordinaires de violence. C'est qu'aujourd'hui, on imagine un peu parfois les pacifistes comme des doux rêveurs, qui, si tous les hommes du monde pouvaient se donner la main, mais c'est pas ça du tout. Giono, c'est un imprécateur. Jacques, tu voulais dire quelque chose?
Le mot de Drieux-La Rochelle dans son journal, parlant de Giono, un forcené, ça rejoint tout.
Voilà, juste que fait. Je te remercie de me mettre dans le même panier que Drieux-La Rochelle.
Oui, mais enfin bon, il n'avait pas toujours mauvais jugement.
Non, il n'avait pas mauvais jugement.
En l'occurrence, c'est utile ici. Hein. On va fermer la parenthèse.
Non, mais c'est très important, c'est-à-dire c'était quelqu'un qui combattait sur un terrain qui n'était pas le terrain des armes, qui était le terrain des idées, mais qui était dans un combat d'une très grande violence, parce qu'il avait pour mission de sauver le vivant. C'est une mission quand même qui n'est pas tout à fait rien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, oui, ça s'est fracassé. Mais moi, je voulais resituer ça. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre la violence des écrits pacifistes si on ne comprend pas l'expérience inaugurale de la guerre de 14. On ne peut pas comprendre l'œuvre si on ne comprend pas qu'elle vient de la tranchée. Vraiment. Et on ne peut pas comprendre les difficultés que nous pose aujourd'hui le comportement de Giono pendant la Seconde Guerre mondiale si on ne voit pas d'où elles viennent. C'est-à-dire d'un dégoût profond de l'humanité au moment où la guerre revient. Et moi, je crois, et je sais que Jacques partage cette vision, qui est qu'après la Seconde Guerre mondiale, Giono a arrêté de croire en l'homme. Voilà.
Tout à fait.
Oui. On va terminer cet entretien. Je rappelle, Emmanuel Lambert, votre livre, c'est Giono Furioso, qui est paru chez Stock. L'exposition démarre quand? Dans
le
un
30
mois
octobre.
30 octobre, on y sera, bien sûr. Clémentine Mélois, merci aussi d'avoir été notre invitée. Vous serez présente à l'inauguration à Marseille?
Oh, j'irai faire un petit tour, oui.
Très bien, on s'y verra.
Elle est invitée, je sais.
Et puis Jacques, quelques informations très pratiques et rapidement sur ce qui se passe en ce moment pour les amis de Jean Giono. Il y a des visites au Paraïs dans le cadre des correspondances.
C'est ouvert toute la journée, oui. Et il y a deux visites thématiques, qui sont plutôt des sortes de conférences que je fais ce soir. Une ce soir à 19h sur la bibliothèque de Giono et une demain à 19h sur le cinéma de Giono. Et puis il y a Jacques Ferrandez qui pendant tout le week-end va être à l'honneur avec sa très belle adaptation du Chant du Monde en bande dessinée.
Voilà. Nous aurons l'occasion de le rencontrer. Je vous propose d'écouter une interview que j'ai réalisée tout à l'heure en vous remerciant, chers amis, d'avoir si bien célébré Giono et salué Giono. Je vais parler de Charles Berberian. Vous savez, Charles Berberian, c'est un illustrateur très apprécié des correspondances dont il a signé plusieurs affiches, mais Charles est aussi un musicien accompli et parfois il se joint à l'équipe des siestes littéraires de Bastien Lallemand avec bonheur. La musique est un élément essentiel de sa vie, à tel point qu'il a publié un album dessiné aux éditions Helium intitulé Playlist de Luxe. On y croise les groupes, artistes et albums qui accompagnent sa vie depuis longtemps, ainsi que des dessins inspirés par ceux-ci. Il présente cet album dans la petite salle de Jean le Bleu à 18h en compagnie d'une autre habituée des correspondances qui va animer la rencontre, Clémentine Deroudil, elle-même artiste et scénographe au CV bien rempli. On lui doit entre autres la fameuse exposition de la Cité de la Musique sur Brassens en 2011 qu'elle a réalisée avec Johan Sfar. Et récemment, elle a diversifié son activité en se penchant sur un géant du cinéma populaire, Louis de Funès. Elle répond à mes questions et nous parle aussi de son émotion vécue à Manosque pour avoir rencontré le photographe Bernard Plossu, Clémentine étant, je le rappelle, la petite fille d'un certain Robert Doisneau. Charles Berberian, qui est-ce qu'on trouve dans votre playlist de luxe ?
Ça commence par Lucienne Delisle et ça finit par les copains, c'est-à-dire Albin de la Simone, Bastien Lallemand, J.P. Nataf. Et entre les deux, il y a toutes les musiques que j'ai écoutées, parce que Lucienne Delisle, c'est plutôt la musique qu'écoutaient mes parents, avec Nat King Cole, Dean Martin, Georges Brassens. Et puis arrive la musique électrique que mon frère a amené dans la maison, qui avait 6 ans de plus que moi. Et donc là, c'est la pop, notamment anglaise, avec les Beatles, les Stones, mais aussi le versant américain de la pop, avec les Beach Boys et un groupe que j'apprécie énormément qui sont les Young Rascals, qui est un groupe vocal un peu dans la mouvance des Beach Boys et des Beatles. Puis ensuite arrivent les années 70. Moi, je suis né en 59, donc là on parle des années 60 où je grandis. Il y avait aussi Nino Ferrer dans mes oreilles avec Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Mais ça, c'est pas les disques que j'ai achetés moi, c'est les disques qui étaient soit à la maison, soit qu'écoutait mon frère, soit les copains de mon frère. Les premiers disques que j'ai achetés, c'est dans les années 70. Et là, c'est Paul Simon et Umir Deodato, qui est un arrangeur brésilien. Les musiques de films, de télé. L'un des premiers disques que j'ai achetés, c'est Chaquito Plays TV Themes. Chaquito, c'est un Argentin ou un Portoricain, je sais pas, qui faisait de la salsa. Et à qui on a demandé de faire un disque d'arrangement des morceaux de génériques de séries télé comme Manix, Mission Impossible, et tout ça. Donc j'étais tombé sur cet album que j'ai acheté et chéri, et je l'ai encore. Arrive la deuxième moitié des années 70, et c'est là que je découvre Neil Young pendant que tout le monde s'excite sur les punks. Mais moi, j'ai toujours eu une bonne dizaine d'années de retard, qui fait que, par exemple, j'ai écouté pour la première fois les Clash en 81, 82. En plus, j'ai cette aptitude à découvrir un groupe ou un musicien avec le disque qui est le plus détesté des amateurs de la première heure. Et je sais pas pourquoi c'est comme ça. Sandinista avec les Clash, Hawks and Doves avec Neil Young, Let It Be avec les Beatles. Let It Be, c'est le premier album des Beatles que j'ai écouté. Enfin, donc j'ai toujours beaucoup de retard et j'en ai encore aujourd'hui. Je découvre avec des années de retard tout ce qui a fait le bonheur des décennies passées. Par exemple, j'ai découvert les Stooges. Enfin, je connaissais leur existence, mais j'ai vraiment écouté leur disque Raw Power et beaucoup apprécié, je crois, il y a une dizaine d'années, quoi. C'est pour dire à quel point je suis probablement la personne la moins habilitée à faire un bouquin sur la musique. Mais en fait, non, parce que moi, je suis pas un journaliste, je suis un amateur au sens le plus noble du terme. Donc j'aime ce que j'écoute, et j'écoute sans cloisonner, et j'écoute toutes sortes de musiques. Et finalement, mon amour de la musique est beaucoup plus organique, beaucoup plus instinctif et empirique. J'ai jamais choisi tribu, j'ai jamais aimé la musique à travers la tribu qu'elle fidélisait, quoi. J'ai jamais associé ce que j'aimais à un style de fringue ou à une attitude. Ça avait d'ailleurs, je me souviens que dans les concerts de rock que je voyais dans les années 70, ça m'énervait quand je voyais un groupe qui commençait à avoir la bonne attitude, mais qui après balançait de la musique pas tellement travaillée, enfin, quand je dis travaillée, pas très en place. J'aurais adoré voir un groupe comme les Stooges et tous les groupes punk français de l'époque, c'est-à-dire les années 77, 78, c'était mauvais, quoi. Enfin, moi, j'avais vu, ça va hurler, mais je m'en fous, j'avais vu les Dogs, j'avais vu Electric Callas, j'avais vu, je sais pas, d'autres groupes comme ça, et pour moi, c'était inécoutable, quoi. Dès qu'ils se mettaient à chanter, c'était encore pire. Après, je trouve qu'aujourd'hui, le niveau a énormément augmenté musicalement, et en France comme ailleurs. Mais quand je dis aujourd'hui, ça fait depuis l'Erita Mitsuko, pour moi, que la France est à la proue du navire musique. On a eu des gens comme Bachung, et aujourd'hui, il y a des gens comme, je reviens à ceux que j'ai cités au début, Bertrand Belin, Les Innocents, Bastien Lallemand, Albin de la Simone. Pour moi, c'est la classe, quoi.
Vous l'avez dit, intégré dans votre playlist beaucoup de dessins et beaucoup de dessins sur des scènes que vous avez vous-même vécues. Vous dessinez, vous croquez lorsque vous êtes dans la vie civile?
Dans la vie civile, mais je suis pas à l'armée, moi. Moi, c'est toujours la vraie vie. Il n'y a pas des phases où je me sens ailleurs que dans la vraie vie.
Alors, est-ce que vous croquez?
Oui, je dessine tout le temps. Et ce terme de croquer, oui, je dis même que je mange le monde en dessinant, que je le digère et que je... Alors, c'est là où ça devient dégueulasse. Je le regurgite à partir de mes dessins. Non, mais pour moi, le dessin, ça a toujours été un moyen de communiquer, bien sûr, mais aussi de me fondre dans quelque chose que j'aime, une histoire, un paysage, et évidemment la musique, parce que les deux activités étaient très très liées, le sont toujours d'une certaine manière, écouter la musique et dessiner en même temps. Et à un moment, quand j'ai commencé à pratiquer la musique, c'était la suite logique, comme le fait de dessiner, ça a été la suite logique de tous mes amours de lecture de bande dessinée. C'est-à-dire, on aime tellement un support qu'on a envie d'en fabriquer un exactement pareil. De fabriquer un livre avec ses mains en le dessinant, ça a été magique pour moi. J'ai découvert ça à l'âge de 10 ans. Et ensuite, avec l'arrivée de la cassette audio et des micros liés aux appareils lecteurs de cassette audio qui nous permettaient d'enregistrer sur ce support-là, j'ai tout de suite eu envie d'enregistrer des chansons, des conversations, et de fabriquer mon petit objet. Évidemment aussi les compilations, les playlists, d'où le titre de l'album.
Alors, vous êtes à Manosque, on vous connaît bien, Charles, pour les illustrations que vous faites des correspondances de Manosque, et vous êtes accompagné par Clémentine de Roudil, qui, elle, va présenter votre playlist, justement, à la petite salle du théâtre Jean Le Bleu. Clémentine de Roudil, on connaît votre parcours autour de beaucoup de musiciens et d'hommes de lettres, que ce soit Brassens, Higelin, Barbara, etc. Et là, votre dernière marotte, c'est plutôt Louis de Funès. Vous changez de braquet ?
Je change de crèmerie, sans blague. Non, c'est une commande, en fait. Mais je me suis prêtée au jeu avec passion. J'ai absolument adoré faire ça. J'ai fait le musée, en fait, Louis de Funès, en 6 mois de temps, avec un livre paru chez Flammarion. Et on a ouvert le musée le 31 juillet dernier. C'est merveilleux, ça désemplit pas, il y a 1000 personnes par jour, c'est extraordinaire, c'est une aventure assez dingue. J'étais très très heureuse. Moi, je travaille sur la culture populaire, je crois. En fait, quand on commence un peu à réfléchir en se disant, tiens, qu'est-ce qui nous passionne? En fait, moi, j'aime bien rendre intelligible tout pour tout le monde, quoi. Et voilà. Et je pense toujours très fort quand je fais des expos, des livres, des rencontres, à ce que ça soit accessible à tous.
Ce musée dont vous parlez, il est à Saint-Raphaël, dans le Var, pas très loin d'ici. Et est-ce que vous avez recueilli un petit peu les réactions des personnes qui passaient, voire retrouver ce géant du cinéma populaire qui était Louis de Funès?
Alors malheureusement pas beaucoup, parce qu'en fait on a surtout travaillé à le construire. Et puis après je suis partie dormir pour me reposer. Mais c'est vrai que c'est absolument incroyable. Non, le jour de l'inauguration, il y avait des gens qui sont venus spécialement de Belgique, qui venaient de partout de France pour être là. Il y a des gens vraiment qui maintenant organisent leurs vacances pour aller à Saint-Raphaël. Quelque chose que je trouve incroyablement émouvant, en fait, dans cet homme qui a aidé à vivre. Mais vous parliez d'Higelin, et c'est un point commun qu'on a avec Charles, parce que Charles a travaillé avec lui, a fait les dessins de ses albums, et moi j'ai fait un livre et puis plusieurs choses avec Jacques. Mais c'était quelqu'un qui aidait à vivre, et la musique, c'est ça. Voilà, moi j'essaie de faire que la vie soit quelque chose de présentable, et la musique, ça nous aide à vivre. Le cinéma et ce comédien incroyable qui nous fait rire, et puis derrière, moi, voilà cette image presque caricaturale. Tout d'un coup, tu creuses, tu réfléchis, tu découvres que c'est un grand défenseur de l'écologie, tu découvres que c'est quelqu'un d'une droiture d'esprit absolument extraordinaire, remarquable. Et puis, c'est quelqu'un qui a marqué une époque, quoi. Les années 70 n'auraient pas été les mêmes sans Louis de Funès, enfin, en tout cas en France, quoi.
Clémentine de Roudil, vous êtes une habituée des correspondances de Manosque. Hier, vous avez vécu un moment particulier. Je rappelle, pour la petite histoire quand même, votre filiation avec un certain Robert Doisneau, l'un des plus grands photographes français. Et hier, beaucoup d'émotions chez vous parce que vous avez rencontré Bernard Plossu, ouais, dans le cadre des correspondances.
Ben, c'est mon photographe préféré. Non mais vraiment, j'ai une vraie passion pour les images de Bernard Plessu. Donc j'ai jamais osé le rencontrer et il était là hier, donc j'étais très heureuse de prendre un verre avec lui. Et puis bah comme quand j'ai rencontré Charles, non mais c'est vrai que Charles, je connaissais très bien son travail. Et quand tu aimes vraiment un travail d'un artiste et que tu le rencontres, souvent ça se passe bien. Enfin pas toujours, mais c'est vrai que une sensation d'appartenir un peu à la même famille. Et c'est vrai qu'avec Bernard Plessu, il y a eu vraiment cette sensation. Tout d'un coup, on s'est vouvoyé, puis au bout de 2 minutes, on se tutoyait, puis on parlait de Guy Le Querec. Je parle de Guy Le Querec à bon escient, parce que c'est un grand photographe de jazz. C'est-à-dire, c'est dans Charles dessine la musique, Guy la photographie. Et voilà, et qui est un photographe qui me passionne vraiment. Et voilà, et on s'apercevait qu'on avait plein de choses en commun. Et donc, c'était formidable. C'était d'autant plus formidable qu'en plus sur la place, à ce moment-là même, il y avait un ami d'enfance que je considérais être un cousin vraiment, qui est Sylvain Tesson, devenu une espèce de phénomène aujourd'hui, mais vraiment qui. Et donc en fait, je n'ai pas écouté Sylvain parce que j'étais. Alors je venais spécialement pour écouter Sylvain, mais il y avait Plessu quoi. Donc pour moi, je pouvais pas passer à côté de Bernard Plessu. Donc c'était super, c'était un moment merveilleux.
L'émotion de Clémentine de Rodil vécue à Manosque. Clémentine de Rodil qui animera la rencontre projection tout à l'heure à 18h, je le rappelle, playlist de luxe de Charles Berberian, c'est dans la petite salle de Jean Le Bleu. Juste quelques informations en ce qui concerne le off. Vous rappelez qu'aujourd'hui, pendant toute la journée jusqu'à 18h, le marché des bouquinistes se déroule à la place Aubermillot, à côté de la sonnerie à Manosque. Et puis des rendez-vous notamment avec les voyages immobiles du Béga Théâtre, c'est de 14h à 18h, c'est sur la place Marcel Pagnol aujourd'hui. Il y a aussi nos amis de la Bastide de Manosque qui parleront de la Provence dans la littérature avec des lectures d'extraits de lettres et de romans. C'est à 15h à la rue Guillaume-Pierre à Manosque. Et puis à 20h30 également, une lecture par l'atelier théâtre pour tous de La Fourmi, Lettre de Madame de Sévigné à sa fille. C'est au théâtre de La Fourmi, 6 rue d'Aubette à Manosque. Juste une information aussi, l'annulation de l'événement qui était prévu au Goût du Livre, une rencontre autour de Pierre Louis et la littérature érotique. Malheureusement, ça a été annulé. Voilà, donc continuez à suivre les correspondances de Manosque sans aucun problème. C'est une belle manifestation et on se retrouve demain, même lieu, même heure, pour parler d'autres invités et notamment avec des écrivains de talent. Merci Chloé pour la régie, bonne journée à tous et à demain.
Merci François, bonne journée sur Fréquence Mistral.